Bonjour à tous, en fait je m'appelle Sébastien, je suis un ancien toxicomane et maintenant je vais vous parler un peu de mon expérience pour vous commenter comment en fait je me suis sorti de la drogue. Et maintenant en fait ça fait 28 mois que je suis dans une association qui s'appelle Saint-Jean-Espérance qui recueille des toxicomanes pour s'en sortir et on est accueilli par des frères de Saint-Jean. Donc en fait je vais vous parler un peu de mon enfance pour que vous compreniez mieux pourquoi, comment je suis tombé un peu dans la drogue. En fait j'ai vécu une enfance à peu près normal jusqu'à l'âge de 5-6 ans où là j'ai eu un peu comment dire, un désastre familial où en fait j'ai eu le divorce de mes parents. Donc j'ai eu mon père qui est parti de chez moi. J'ai juste des images très concrètes, par exemple la baignoire qui déborde, ma mère qui pète un plomb, mon père qui claque la porte. Et voilà, c'est un peu vraiment juste ça, les seules images que j'ai de mon enfance. Mais en fait, je m'en suis pas trop rendu compte parce que j'avais que 5-6 ans et mes parents se sont vite remariés. Donc j'ai été trimballé entre deux familles, alors entre mes beaux-parents, ma belle-mère, mon beau-père. Et en fait, voilà, je m'adaptais à chaque famille. Et en même temps, mais comment expliquer, mes parents essayaient de rattraper un peu ce divorce en disant, oui, tu as énormément de chance, voilà, tu as deux familles, tu as deux Noëls, tu as plusieurs grands-parents. T'as deux anniversaires, voilà. Ils essaient de racheter ça par des cadeaux, donc j'ai été assez pourri gâté pour voilà, essayer de remplacer un peu ce problème familial. Et en fait, je me suis rendu compte du truc que vers l'âge de 12-13 ans, où j'ai un peu pris le divorce de mes parents un peu en pleine figure. Et en fait, là, j'ai compris qu'en fait, j'avais aucune défense affective pour lutter contre le divorce de mes parents. À 5-6 ans, j'ai rien compris de ce qui se passait. Et à l'âge de 12-13 ans, là, j'ai commencé à comprendre. Et j'avais une grosse haine envers mes deux beaux-parents, en fait. Je me sentais pas chez moi, ni chez mon père, ni chez ma mère. Et donc, j'avais besoin de fuir la réalité. J'étais pas bien dans mon corps. Et là, j'ai découvert, en fait, le cannabis à la sortie de l'établissement à l'âge de 14 ans. Et j'ai touché tout de suite au cannabis, comme ça, je sais pas, j'étais attiré vers l'interdit. Et voilà, et comme je me sentais mal chez moi, je me suis dit, tiens, autant tester, j'aimais bien faire des petites conneries avant. Et j'ai testé, malheureusement pour moi, en fait, j'ai bien aimé ça. Et au fur et à mesure, ça s'est accumulé, en fait. Je commençais à fumer tous les samedis soirs avec le même style de copain. C'est-à-dire, j'avais 4-5 potes, et on se voyait toujours, tout le temps, tous les jours. Le samedi soir, on restait entre nous, et en fait, on devenait assez marginal. Tous les potes que j'avais ou les copines que j'avais avant, je les voyais plus. Et je voyais que le même style de copains, toujours les mêmes, ma bande de potes. Et en fait, c'était en fait un peu ma deuxième famille, quoi. Ça a été une sorte de refuge pour sortir de chez moi. Mes potes, c'était un peu ma famille et je me sentais bien avec eux autour d'un joint. On fumait, on rigolait comme des cons autour d'un joint. Et voilà, ça me permettait de cacher ce que j'étais et d'être à peu près en accord avec moi-même, quoi. Mais au fur et à mesure, tout s'est accumulé. Je fumais plus un joint juste le samedi soir. Je fumais tous les jours à la sortie de l'établissement, toujours avec les mêmes potes. Et au bout d'un moment, j'ai eu un problème d'argent. Donc, qui dit problème d'argent, parce que le cannabis, ça commence à coûter cher. Donc, j'ai voulu me mettre à dealer pour payer ma consommation gratuite. Et voilà. Puis aussi pour faire plaisir à mes potes. J'aimais bien prendre des risques. Et en même temps, je pense que j'ai voulu dealer pour combler un peu le manque d'amour que j'avais pas eu quand j'étais petit. C'est-à-dire que, voilà, devant mes potes, ils m'appelaient et tout ça, et voilà, j'avais du cannabis, et voilà, j'étais content, j'avais l'impression d'être aimé, d'être regardé, d'être reconnu, je sais pas. Et donc voilà, je suis rentré dans un cercle vicieux où j'aimais bien aller dealer pour faire plaisir à mes copains et voilà, et être reconnu. Et au fur et à mesure, voilà, c'était plus pour ma consommation gratuite, ça a été aussi pour faire de l'argent. Et voilà, donc ça a été, c'était toujours le même système, cannabis, deal, argent et toujours les mêmes potes. Ça a duré jusqu'à l'âge de 16-17 ans, mais le problème c'est que dans le cannabis, on en veut toujours plus. Donc je fumais 5 à 10 pets par jour vers l'âge de 16-17 ans, mais au bout d'un moment, le produit a commencé à me lasser. Un toxicomane, ça en veut toujours plus. Je voyais toujours, et je commençais à en avoir marre de voir toujours les mêmes potes et tout ça, et un jour. Pourtant, à l'âge de 15 ans, par exemple, je m'étais toujours dit, je resterai toujours qu'au cannabis et tout ça. Moi, je suis un mec zen, peace and love, il n'y a pas de problème. Voilà, je me fonce des, je suis tranquille, je ressemble à Bob Marley. Et puis d'un coup, on m'a mis une ecstasy dans la bouche et j'ai pas dit non à 17 ans. Je peux pas vous expliquer pourquoi. J'ai toujours eu peur de ces drogues et tout ça. Et puis hop, j'en avais marre du cannabis et j'étais une vraie loque humaine et boum, une ecstasy. Et voilà, j'ai aimé ça aussi. Ça m'a mis un peu de speed, on va dire, parce que j'étais une loque humaine avant. Et là, ça a été aussi une révélation pour moi, l'ecstasy. C'est-à-dire que vu que j'en avais complètement marre du cannabis, et bah, l'ecstasy a fait l'effet inverse. C'est-à-dire que ça m'a donné envie de faire plein de choses. J'allais dans des soirées, je dormais plus et tout ça. Et j'ai fait exactement le même système qu'avec le cannabis. C'est-à-dire que c'était au début une, ça te suffit. Et au fur et à mesure, c'était deux, trois, quatre. Il y a une accumulation. Pareil avec le deal. Pareil, j'ai changé de groupe d'amis. Je suis devenu vachement marginal, mais avec un autre groupe d'amis. Dans le monde de la nuit, je voyais toujours la même personne et c'était aussi pour être reconnu. Et voilà, donc je dealais et je me mettais des ecstasy dans la face, quoi. Et puis après, je suis passé à la cocaïne aussi. Voilà, quand on se lasse de l'ecstasy, on teste la cocaïne. Pareil, même système. Et en fait, dans cette période-là, où là j'ai commencé à perdre beaucoup de kilos, je faisais que ça, je dormais plus. J'ai rencontré une fille qui m'a un peu sorti de tout ça. Sorti de tout ça, je continuais à lui mentir, à dealer, à prendre des ecstasy ou de la cocaïne en cachette, mais en même temps, elle me servait de refuge un peu dans ce monde de fou où je vivais. Et un peu, j'ai utilisé ma copine un peu comme une maman, on va dire, une sorte de protection affective dans ce monde de brut, en fait. Donc je la voyais un ou deux jours, et voilà, j'étais juste bien avec elle. Mais elle m'a prévenu pendant 7-8 mois qu'il fallait que j'arrête. J'étais en train de la détruire, je faisais que lui mentir. Il n'y avait qu'une relation de mensonge. Parce qu'en fait, dans la drogue, c'est la culture du mensonge. On fait que de mentir à ses parents, à ceux qu'on entoure, à soi-même, à tout le monde. Et sans s'en rendre compte, on s'habitue à mentir même aux personnes qu'on aime, sans s'en rendre compte. Et on ment comme si c'était normal, comme si on était dans la vérité. On ment, c'est normal, c'est la vérité pour nous. Et boum, un jour, elle m'a largué, en fait. Ce qui était tout à fait normal, parce qu'elle ne voulait pas me voir pourrir en prison, et elle ne voulait pas se pourrir elle-même aussi. Et là, je suis tombé très 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 bas. Et en fait, j'ai découvert le crack à ce moment-là, qui en fait, voilà, le crack, voilà, vous ne devez pas trop connaître, mais en fait, moi, ça m'a permis de remplacer un peu l'amour perdu que j'avais. Je recherchais des flashs en voyant cette fille dans mes rêves, en fait. Et je me suis complètement enfermé dans ma bulle. Et quand on rentre là-dedans, dans la cocaïne, le crack, et ben, on pense plus qu'à ça. On va en prendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Notre journée est basée que là-dessus. Et un beau jour, ma mère, quand même, qui m'a jamais lâché, m'a donné le papier de Saint-Jean-Espérance. Voilà, mais je l'ai laissé dans un coin. Et je me suis dit, non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas un toxicomane. Je peux m'en sortir tout seul. Puis j'étais peut-être pas tombé assez bas. Puis un beau jour, par peur des flics, peut-être. Sûrement même, je peux le dire maintenant, oui, sûrement. Ben voilà, j'avais peur d'aller en prison, je me suis dit, tiens, j'ai ressorti le papier de Saint-Jean-Espérance, je fais, tiens, il y a un endroit qui accueille des toxicomanes, je vais peut-être y aller pour me cacher un petit peu, et puis aussi pour faire plaisir un peu à maman. Voilà, elle sera heureuse, elle vit un enfer, et voilà, je vais l'aider. Donc je débarque à Saint-Jean-Espérance, complètement à l'ouest, je me fais. Et il y a un frère qui m'accueille à la gare, qui m'amène dans la maison, donc je débarque dans une maison avec. 9 anciens toxicomanes qui étaient là depuis 2, 3, 4, 5 mois, plus 5 frères. Et là, j'hallucine complètement. Bon, j'arrive pendant un chapelet, on commence à me faire un chapelet. Je fais, c'est quoi cette maison de fous? J'ai des frères qui me regardent comme ça, avec un grand sourire, qui se foutent complètement de ce que j'avais fait avant, qui me regardent comme une personne normale. Alors que je débarquais, j'avais l'impression que tout le monde me jugeait. J'avais peur de mon ombre, je devenais assez parano, et je me dis, mais pourquoi ces mecs ils me regardent comme ça, avec cette cape noire et tout, et puis en limite ils me disent, avec le regard, je t'aime Sébastien, je t'aime, je dis, oulala, mais c'est qui ce ouf, et tout ça. Et on me met au mouton aussi là-bas, au mouton, moi qui viens de Paris, en fait, je t'ai pas dit, je viens de Paris, de la ville, j'ai jamais vu la campagne, on me met au mouton, aux agnelages, et je découvre la vie, en fait, tout simplement, ces petites bêtes qui naissent, un petit agneau qui sort, l'amour protecteur de la brebis avec l'agneau, et ça m'a un peu. Bah, complètement métamorphosé. Le silence, les frères, et aussi ces autres mecs qui viennent de différents milieux, qui ont différentes histoires, mais on est tous là un peu pour la drogue aussi, et qui sont là et qui me regardaient pour ce que j'étais, et qui me soutenaient, qui veillaient avec moi la nuit parce que j'arrivais pas à dormir, parce que j'étais en manque de drogue et tout ça. Et vraiment, on voyait autant les frères que les jeunes qui étaient là-bas, ils s'intéressaient à moi, mais pas pour la drogue que j'avais, pour ce que j'avais fait, mais juste pour ma propre personne. Et ça m'a véritablement touché, quoi. Et je me suis dit, et c'était vraiment. Et à Saint-Jean-Espérance, je vivais des repas simples, des joies simples. On avait des sujets de. On parlait de tout, tout, rien, mais vraiment, il y avait une ambiance saine. Mais malheureusement, j'étais encore pris par les produits. Et voilà, je me suis dit, il faut que j'aille. Et je suis parti de Saint-Jean-Espérance vraiment en sachant que je faisais une connerie. Je suis resté qu'un mois là-bas. Et je savais que je faisais une énorme connerie en partant de Saint-Jean. Mais en même temps, voilà, au bout d'un mois, on commence à voir tout l'ampleur des dégâts qu'il y a en toi. Et tu te dis, oula, il y a trop de boulot à faire, je préfère partir. Et je suis retombé encore plus dans la merde en ressortant. Et voilà, je m'en refais. Et je sais pas comment vous expliquer, quand on touche quelque chose de grand, on sait que c'est là qu'on doit être. Qu'on a touché, que notre cœur a été touché, et qu'on repart un peu dans l'enfer, et bah, c'est encore pire qu'avant. Donc j'ai rappelé au bout de 3 semaines Saint-Jean-Espérance pour revenir, et là, et le frère m'a réaccueilli. Et donc là, maintenant, ça fait 28 mois que je suis à Saint-Jean-Espérance. Je m'en suis sorti, et en fait, ce que j'ai énormément compris, parce que je devais aller avant dans un hôpital psychiatrique pour m'en sortir, soit à Saint-Jean. Et en fait, j'ai vu que. Les médecins, généralement, n'avaient rien compris. On s'est remplacé un produit par un autre. On me donne des produits, ça ne sert à rien du tout. Le seul besoin réel qu'a un toxicomane pour s'en sortir, c'est de l'amour. Et à Saint-Jean-Espérance, on te donne de l'amour. Un toxicomane, il est complètement blessé au niveau du cœur. Il a eu des problèmes familiaux, il est blessé. S'il prend de la drogue, c'est parce qu'il a vraiment un problème. Voilà, il ne se sent pas aimé et la drogue, c'est son amour. Et à Saint-Jean-Espérance, les frères, les jeunes. Te donne de l'amour et c'est basé vraiment sur l'amitié. Et au bout d'un moment, à Saint-Jean-Espérance, vu qu'on vit en communauté, on n'est plus du tout. Comment expliquer? On peut pas se cacher. Au bout d'un moment, tu es obligé d'aller vers l'autre, sinon tu pètes un plomb dans une communauté. C'est aussi simple que ça. Donc tu es obligé d'aller rencontrer l'autre. Et donc tu découvres l'amitié. Tu es attiré par l'autre, tu découvres l'amitié et c'est ça qui te sauve. Voilà en gros à peu près pourquoi je suis resté à Saint-Jean-Espérance. Et c'est pour ça que maintenant ça a donné un nouveau sens à ma vie. Je compte bientôt sortir de Saint-Jean-Espérance. J'ai découvert l'amitié. J'ai des grandes espérances pour la vie. Maintenant, j'ai des projets pour me réinsérer dans la vie sociale. Et je sais que je ne retomberai pas. Et j'ai une deuxième famille chez Saint-Jean-Espérance. Voilà. Merci beaucoup.